Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une spéciale film noir et polar. Avec quatre titres sortis chez Éléphant de Film, à savoir La Clé de Verre de Stuart Hessler, un film de 1942, Les Mains qui tuent, un film de 44 de Robert Siodmak, La Grande Horloge de 48 et Les Yeux de la Nuit de la même année, deux films de John Farrow. Également au programme Marché de Brut, un film de 48 d'Anthony Mann, édité par Rimini. Et puis après, on va basculer dans le temps. On ira du côté de After Dark, My Sweet de James Foley, qui est paru chez Carlotta Film. Tout comme le livre d'ailleurs, The Big Goodbye de Sam Wasson, qui revient longuement sur un chef-d'œuvre du film noir, Chinatown de Roman Polanski, film de 1974. Et puis on causera aussi de Hors d'atteinte, un film plus récent, un film de 1998 de Steven Soderbergh. Bon, qui est plus un polar mais qui a parfois des petits airs de film noir, qui est disponible chez Rimini. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bang Bang. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Pascal Français qui s'y colle. Pascal, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour à tous, je suis un romancier qui s'est un peu spécialisé dans les mauvais genres de la littérature, c'est-à-dire le fantastique, le polar, enfin tout ce qui est un petit peu décalé. Et j'ai surtout une très très grande passion pour le cinéma et évidemment le cinéma de mauvais genre également, tout ce qui est un peu dans les marges et qui est un petit peu négligé par la critique traditionnelle. Et donc, j'ai écrit un livre sur le torture porn, un autre tout récemment sur la teen horror, le cinéma d'horreur mettant en scène des adolescents. Et voilà, ce sont mes grandes passions, mes grands centres d'intérêt.
Pouvez-vous nous présenter votre travail au sein de la revue Prime Cut ?
Alors, mon travail au sein de Prime Cut, qui s'intéresse justement à des cinéastes de mauvaise compagnie, des cinéastes négligé, mal vu, qui appelle une réhabilitation, eh ben, ça a été d'aborder Michael Winner sous un angle un petit peu inattendu, mais qui est sous-jacent dans son œuvre, en particulier dans la deuxième partie de sa filmographie, qui est le camp, qui est un concept basé sur l'outrance, l'exagération, l'excès et la confusion des genres, à la fois des genres cinématographiques et des genres sexuels, et d'aborder ça pour en particulier la dernière partie de sa carrière, qui est assez peu abordée, assez peu traitée quand on compare à des films comme Des Swish, Justicier dans la ville, qui est considéré comme un film machiste. Et donc, d'aborder Winner sous cet angle un peu inattendu et marginal.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
Pour causer film noir, je me suis entouré de brigands, de sacrés brigands. Ben, on va commencer tout d'abord par un revenant. Eh oui, un revenant. John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Hi John.
Eh bien oui, bonjour Gégé, bonjour Thomas et bonjour à tous.
Eh oui, il a vendu la mèche, l'ami John, il a vendu la mèche. Il y a un autre personnage dans ce studio, un sacré gangster aussi, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut John et bien évidemment bonjour à toutes les femmes fatales qui nous écoutent.
Eh bien, pour ton retour, John, on a décidé de te faire un cadeau. On fait une émission spéciale film noir, toi qui aimes tant le film noir. On va parler là, tout de suite de La Clé de Verre, The Glass Key, qui est une adaptation du célèbre roman de Dashiell Hammett. J'y reviendrai parce qu'il y a des grosses différences avec le bouquin quand même. Et qui est un film de 1942, qui est un film de Stuart Eisler, avec Brian Donlevy, Alan Ladd, et surtout Veronica Lake, hein, une des grandes femmes fatales de l'histoire du film noir. C'est Hammett lui-même qui fait le scénario avec Jonathan Latimer. Et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire du président du syndicat des électeurs qui est fortement courtisé parce qu'il va y avoir les élections, tout simplement, qui s'appelle Paul Madvig, et qui tombe amoureux de Jeannette Henry, fille du candidat sortant, et qui décide donc de soutenir celui-ci. Son fidèle bras droit, Ed Beaumont, ne voit pas d'un bon oeil cette histoire d'amour et ses conséquences, d'autant que le jour où le turbulent Taylor Henry, frère de Janet et petit ami d'Opal Madvig, la sœur de Paul, est assassiné dans la rue. Les soupçons retombent vite sur Paul. Fidèle à son patron et ami, Ed Beaumont va essayer de résoudre cette enquête pour le disculper en opérant avec intelligence et sournoiserie dans un monde de manipulation, de violence et de corruption.
Là, pour le coup, Stuart Eisler nous livre vraiment dans le fond et dans la forme un vrai film noir avec une Veronica Lake en belle femme fatale. Moi, j'ai été assez impressionné par le rôle en fait du bras droit, parce qu'il y a une scène assez violente où il se fait tabasser. C'est vrai que niveau violence, il y a quand même ce petit truc-là qui m'a assez étonné, parce que sinon, l'air de rien, dans la mise en scène comme dans la photographie, bon, on est dans les grands canons d'Hollywood, hein, ces cheveux brillants, cette image comme ça, typique de ces années-là, des années 40 dans les films noirs. Mais il y a ce petit côté moderne qui est pas mal.
Le bouquin de Hammett, en fait, il est revisité et remanié un peu pour permettre justement d'être la plus grande présence de ce couple, Veronica Lake, Alan Ladd, et d'ailleurs pour donner aussi, on va pas dévoiler la fin du film, mais enfin une fin plus heureuse que dans le livre, hein, qui est assez différente, c'est que ce film, il est particulièrement moderne aussi dans ce qu'il montre du jeu politique, des choses qu'on voyait pas forcément énormément. Bon, il y avait Capra, il y avait des cinéastes comme ça, mais qui donnaient pas à voir. Là on est carrément, bon, on se dit putain, les politiciens c'est les gangsters, quoi, c'est le même monde, quoi. On a l'impression, voilà, que c'est le même monde. Et surtout, moi qui adore Dashiell Hammett et son écriture au couteau, bon, c'est quand même l'un des fondateurs de la Hard Boiled School, c'est un des fondateurs du polar, hein, en littérature, du roman noir, le vrai. Moi, je trouve qu'on arrive bien, malgré toutes les trahisons qu'il y a par rapport au bouquin, on arrive bien à restituer l'ambiance particulière du livre. Même si le livre est un peu plus noir, hein, quand même. Hein. Mais on arrive bien. Je voulais juste te dire, quand même, qu'on sait très vite qui est coupable. Enfin, on sait très vite que dans la première traduction du livre en France, qui était parue à la série Noire, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, alors que c'est ça qui fait tout le sel du livre et du film, hein, c'est-à-dire c'est ce jeu du chat et de la souris entre celui qui enquête et le fait que celui qui enquête sait qui est le coupable, voilà, et donc le meurtrier, ça avait été enlevé en fait dans la traduction originale de la série Noire, il l'avait enlevé parce qu'il se disait on ne doit pas révéler qui est le tueur, c'est la règle du polar, le tueur on le révélera à la fin, ce qui fait que le livre perdait beaucoup de son sel. Et que bon, heureusement, depuis, Gallimard s'est rattrapé, le livre a été retraduit avec la vraie traduction, et du coup, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on a cet affrontement entre deux hommes, quoi, voilà, qui est très intéressant. Alors, après, moi, je trouve que c'est un film noir très efficace, il fait 1h20, c'est les standards, c'est les canons de l'époque, hein.
il est, comment dire, vraiment, il respecte toutes les sacro-saintes règles du film noir, j'ai envie de dire, et c'est une sorte d'archétype, en fait. Nous allons continuer avec un... Bon, moi, ce que je considère comme un film assez incroyable, c'est Les Mains qui tuent, Phantom Lady, de Robert Siodmak, qui est un film de 1944 et qui est un film assez particulier, en fait. C'est l'histoire de Scott Henderson, un jeune ingénieur qui a tout pour réussir, qui a une secrétaire qui l'aime beaucoup, hein, voilà, qui est un type plutôt sympa, et puis qui ça va plus très bien dans son couple avec sa femme. Ils ont décidé d'aller voir un spectacle, je crois que c'est sur Broadway, et puis sa femme se désiste. Et là, il rencontre une femme, la première femme qu'il rencontre, en fait, et c'est un peu deux solitudes qui se rencontrent ce soir-là, ils vont tous les deux pas très bien. Et il dit à cette femme, bah, écoutez, venez avec moi au spectacle, on va aller au spectacle. Paf, bon, ils vont au spectacle, il rentre, il prend le taxi, tout ça et tout. Et puis tout à coup, il y a les flics qui arrivent chez lui. Il arrive chez lui, il y a des flics chez lui. Bon, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on se demande si c'est des gangsters ou des flics, vu leur comportement, voilà. Il y a des flics chez lui, qui sont chez lui, qui l'attendent, et qui lui disent, bon, allez dans la pièce d'à côté, puis là, il voit sa femme qui a été tuée, quoi. Voilà. Alors évidemment, il est le premier suspect, pour prouver son innocence, il doit retrouver cette femme, voilà. Mais personne ne le croit, c'est la Phantom Lady, elle n'existe pas, personne ne la retrouve. Voilà, alors qu'il s'est passé plein de trucs cette nuit-là, un truc avec un chapeau, parce qu'elle portait le même chapeau qu'une danseuse qui se produit sur scène, tout ça. Enfin voilà. Bon, ils ont rencontré un chauffeur de taxi et tout. Et personne, ils sont allés au bar ensemble, personne ne semble se souvenir de cette femme. Tout le monde dit non, c'est pas vrai, il était tout seul. Bon, étrange, vraiment très étrange. Et du coup, il est en prison. Et alors, il y a sa secrétaire, Ella Rains, qui est. Là, c'est pareil. Un physique particulier, vraiment, elle est assez marquante, qui décide, qui en fait est secrètement amoureuse de lui, voilà, et qui décide de mener l'enquête, et qui décide de retrouver, de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir innocenter son patron, au départ de retrouver cette femme, et puis petit à petit, on va vite découvrir qui est le tueur, et c'est là que le film est passionnant, parce qu'en fait c'est un des premiers films qui parle de la psychopathie, même si l'on ne peut pas forcément les termes exacts. Le tueur, c'est un artiste, en fait, c'est un sculpteur, et il a un lien en plus avec le voilà. Et ça, dès le milieu du film, on le sait, et c'est assez étrange parce que du coup, ça donne un lien entre le côté création artistique, artiste torturé, et en même temps, le type qui est un peu victime en fait, qui tue des gens, mais qui est victime de ça, enfin, qui est malade, qui est un malade mental. Voilà, ça, c'est clairement affirmé dans le film. Et puis, on tremble pour cette belle Ella Rains qui mène son enquête, qui va dans les bas-fonds, qui va rencontrer des personnages peu recommandables, et puis qui va vivre une scène incroyable, c'est-à-dire elle est grimée en femme fatale, elle va séduire un batteur, hein, parce qu'il y a un batteur qui, ce soir-là, a vu son patron qui est en prison avec cette femme. Elle retrouve ce batteur, qui est d'ailleurs interprété par Elisha Cook. Elisha Cook, c'est un des seconds rôles les plus marquants de l'histoire du cinéma américain, voilà. Et il se trouve qu'elle va dans la boîte de jazz où il joue, qui est un peu une boîte de jazz mal famée, comme ça, toute serrée. Et là, il y a une série de plans incroyables où, en fait, il y a un solo de batterie et c'est un orgasme, quoi. Et donc, par le biais du montage syncopé, des plans serrés, une superbe utilisation du 4 tiers, on a cette scène qui défie là encore la censure. C'est miraculeux, je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir échappé à la censure, parce que c'est tellement évident, mais là, ils y vont fort quand même, parce que là, tout de suite, ça te saute aux yeux. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec ce film? Alors, il y a cette scène très marquante, et puis il y a aussi le style Siodmak, hein, qui adapte magnifiquement Irish, hein, William Irish. Et il y a vraiment l'expressionnisme allemand qui est là, quoi. Enfin, y a des cadrages de dingue, il y a des plans cassés comme ça, c'est très stylisé. Il joue avec le cadre pour enfermer ses personnages. La scène où le batteur se fait tuer est géniale. Où il joue avec les ombres, voilà. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est un film. Il ne vaut pas que pour sa scène orgasmique hallucinante, quand même, mais il vaut pour tout ce qui va autour aussi. C'est un film très impressionnant, je trouve. Il y a une maîtrise de la mise en scène qui est extraordinaire.
Ah non, tout à fait. C'est moi, ça a été vraiment une vraie découverte. Je dirais même que ça rentre vraiment dans mon top 5 des films noirs, j'ose le dire, parce que j'ai été, moi, très, très impressionné. Et c'est là où on voit l'héritage des immigrés allemands qui sont arrivés sur Hollywood et tout cet héritage de l'expressionnisme allemand. Le film n'a que des plans toujours assez magnifiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est toujours entre le noir, le blanc. Ça épouse un peu la forme comme ça d'un film noir où justement tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des fois des choses un peu grises. Le rôle de la femme est un rôle de femme forte incroyable. C'est-à-dire qu'elle va même jusqu'à, comme tu le disais, se grimer pour aller dans les bas-fonds. Tout ça pour... secrètement, bien sûr, elle aime cet homme-là. Mais je veux dire, elle va très très loin dans ses recherches. Donc, est-ce que c'est pas non plus une des premières femmes fortes à l'écran qui va après donner tout ce qui va être un peu Ellen Ripley ou des choses comme ça? Voilà, c'est vraiment la femme forte. Et alors, oui, cette fameuse scène de la batterie avec un Elisha Cook. Alors, c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours étonné, que ce soit dans le film noir de Kubrick, que ce soit dans les autres rôles qu'il a. Il a une prestance, ce mec. Il a un truc, ne serait-ce que dans la première scène où on le voit jouer dans la salle de spectacle, où il fait ce petit rictus du clin d'œil comme ça. Il apporte une présence totalement incroyable. Et cette fameuse scène de batterie, le montage, la musique, la façon de cadrer, parce que la façon de cadrer, on voit bien qu'on est peut-être même une petite souris qui est prise dans un piège ou quoi que ce soit. Et puis c'est non-dit, cette femme qui sait peut-être pas trop où aller, mais elle doit garder un peu son rôle, parce que sinon, si elle se fait démasquer, tout est foutu. Il y a vraiment tout de rassemblé pour en faire, et c'est un très grand film.
Effectivement, c'est un, comme tu dis, c'est un très grand film de Robert Siodmak. Et il y a aussi une maîtrise de l'écriture qui est quand même assez hallucinante, parce qu'on commence par le point de vue d'un homme. On se dit, ça va être son histoire, ça va être l'histoire d'un homme qui cherche à s'innocenter. Mais non, on glisse progressivement justement vers le point de vue de cette jeune femme, du personnage incarné par Alla Rains. Et c'est fait avec une certaine maestria qui est quand même étonnante. Il y a un récit de la narration qui est encore aujourd'hui, je trouve... très très maîtrisée, quoi, qui est très belle. Et aussi, bah, c'est vrai que la mise en scène, il y a rien à acheter, quoi. Il y a notamment, je pense, à la scène du tribunal où on ne voit jamais les jurés, on ne voit jamais le président, on ne voit jamais les avocats, on ne voit jamais les jurés, et c'est comme une voix d'une sorte de justice immanente, et ça accentue le côté la condamnation, la sentence de la condamnation du personnage principal. On n'a que des plans sur... on n'a même pas de plan sur lui, en fait. On n'a que des plans sur les gens qui sont venus assister au procès. Et je trouve ça très fort au niveau de la mise en scène et de ce que le Robert Siodmak veut impliquer. Et c'est aussi un film qui est quand même... Enfin, c'est comme... En fait, tous les films noirs de cette époque sont quand même vachement violents, en fait, quelque part. L'érotisme, la violence. Bon, y a quand même un mec, l'héroïne est quand même à un moment responsable de la mort d'un mec, quand même. Même s'il peut y avoir une ambiguïté sur le fait que c'était plus ou moins voulu, mais bon, enfin, pas par elle, mais par une tierce personne. Mais il y a quand même cette ambiguïté-là, quelque part, à un moment. Enfin, c'est vrai que c'est effectivement un très grand film noir et peut-être le meilleur film de Robert Siodmak.
écouter Culture Prohibée.
Autre film noir édité là par Elephant Film dans cette salve, que moi j'ai découvert. Hein. Je connaissais John Farrow, mais j'ai redécouvert John Farrow avec ces deux films. La Grande Horloge et Les Yeux de la Nuit. Je crois, Thomas, toi, je crois que ça a été pour toi aussi, John Farrow, ça a été vraiment une découverte, quoi. Enfin, en tout cas, ou une confirmation, je ne sais pas, tu vas me dire.
J'avais déjà vu La Grande Horloge, j'étais passé au ciné-club de Patrick Brion, il y a de ça quelque chose comme 20 ans. Et effectivement, c'est... Bon, là, cette fois, on suit le personnage qui essaye de s'innocenter, qui est le personnage principal masculin, qui essaie de s'innocenter par rapport à un crime qu'il n'a pas commis, un journaliste assez talentueux et qui veut enfin prendre des vacances avec son épouse et son enfant. Ils veulent un peu s'éloigner un petit peu de la grande ville et prendre un peu de temps pour eux. Mais malheureusement, le grand patron du journal n'est pas du même avis. Et le journaliste, à un moment, un soir, le grand patron le fait plus ou moins chanter en disant « Si tu fais pas ce boulot-là, etc., si tu peux faire partir en vacances, ben voilà, t'as plus de boulot. » Et lui, il est un peu remué par ça, et il sympathise avec la femme de ce patron. Et ils vont passer la soirée ensemble. Ils vont faire la tournée des bars. Ils vont un peu boire un peu beaucoup même. Et lui, il va manquer le train qui l'amène en vacances avec sa femme et son enfant. Et il va rentrer chez lui bourré. Donc sa femme sera absente et il va finir par la rejoindre quand même le lendemain. En retard, elle va lui faire un petit peu la tête, mais seulement il y a quelque chose qui l'attend, c'est que il ne sait pas, c'est que la femme avec qui il a passé la nuit, elle a été assassinée peu après son départ par le patron du journal, incarné par Charles Laughton.
Un patron particulier, parce que Laughton a de ça, qu'il joue très bien les grands chefs tyranniques, tout ça et tout, et qui là est une sorte de démiurge dans son immeuble, parce que c'est l'immeuble plein d'étages, ils vont voilà. D'ailleurs. Qui est amené par un plan séquence d'ouverture assez fantastique où on passe de l'infiniment grand au détail comme ça dans un plan très impressionnant pour l'époque, très très impressionnant quoi. Effectivement, Laughton est vachement impressionnant. Je voulais dire que Remy Land est aussi très bon hein, dans le rôle du très Hitchcockien en fin de compte de l'innocent accusé à tort qui essaye de se dédouaner.
Ah non, mais ça, mais il y a un vrai scénario Hitchcockien, et moi ce que j'adore, c'est l'ironie du propos. C'est-à-dire que lui est chef d'une section dans le journal qui retrouve les meurtriers ou quoi que ce soit, et c'est cette même équipe à qui on fait appel pour retrouver justement le meurtrier dans lequel lui serait impliqué.
C'est aussi un film qui est très moderne, pas seulement par ses mouvements de caméra, parce qu'il n'y a pas qu'un plan en séquence d'ouverture, il y en a d'autres dans le film, hein. Mais au niveau esthétique, bon, bien sûr, qui dit film noir dit jeu sur les ombres, les lumières, etc. Mais je trouve que aussi, il fait quelque chose de ce bâtiment. Il en fait comme une ville dans la ville. Et le film devient au bout d'un moment quasiment un huis clos en fait. Et quelque part, est-ce que c'est pas un film qui préfigure des films comme Die Hard, etc. Parce que le personnage, il est enfermé, il ne peut pas ressortir, il est entouré plus ou moins d'ennemis, parce que s'il est reconnu, tout le monde le désignera comme le coupable, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, il est dans une sorte de piège, comme McTiernan l'est dans un piège de cristal.
Autre film de John Farrow, Thomas, que moi, j'avoue, je préfère à La Grande Horloge, hein, c'est Les Yeux de la Nuit, Night has a Thousand Eyes, où un type sauve une ravissante jeune femme du suicide, qui est incarnée par Gail Russell, la vénéneuse Gail Russell, hein, qui malheureusement a une destinée tragique, puisque morte très très jeune, elle n'était pas faite pour le végétariat, et elle a sombré dans un alcoolisme qui l'a malheureusement tuée très jeune. Elle a une beauté vénéneuse, elle a une présence incroyable, moi je trouve, dans ce film, et elle essaye de se suicider, elle est sauvée par un jeune homme qui la ramène auprès de Edward J. Robinson. Et là, on va avoir des flashbacks et on va découvrir pourquoi elle a voulu se suicider. On va découvrir qui est Edward J. Robinson, qui il est pour elle aussi. Et en fait, on arrive du coup dans un film qui est à mi-chemin entre le fantastique et le film noir, parce que ce Edward J. Robinson, il a une malédiction, en fait. Il est voyant. Et il a des visions, hein, voilà, il n'est pas voyant en regardant dans une boule de cristal, il a parfois des visions qui lui prédisent l'avenir, mais pour de vrai. Et il a vu des choses pas terribles pour cette jeune femme, hein, voilà, qui est proche de lui, enfin voilà, on ne vous dira pas, on vous dira pas pourquoi. Ça donne un film vraiment particulier. Moi, je le trouve particulièrement bien construit avec une utilisation astucieuse des flashbacks. Mais comme j'ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, je vais laisser Thomas vous en dire quelques mots quand même.
Je ne partage pas tout à fait ton enthousiasme. Moi, je préfère La Grande Horloge, hein, ses yeux de la nuit. Je trouve que l'intro est extraordinaire. L'intro est superbe, hein, dans une gare. On est vraiment dans le film noir, là, dans l'utilisation des décors, la lumière. Je trouve que l'intro est formidable. Il n'y a pas un mot. C'est vraiment chouette. Et moi, je trouve qu'après, ça retombe. Je trouve que le soufflet retombe un petit peu. Parce que moi, je trouve que le film hésite entre le fantastique et je lui trouve un petit côté mélo. Je trouve que le film est moins maîtrisé que La Grande Horloge.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial film noir. Mais je vais faire un petit bond dans le temps et je vais vous amener en 1990 pour un film de James Foley. Et oui, James Foley, c'est le réalisateur, alors on en avait parlé dans cette émission, hein, de Comme un chien enragé, avec un jeune Sean Payne. Voilà, et là, il signe un film noir qui s'appelle After Dark, My Sweet, alors qui est inspiré de Jim Thompson. Alors Jim Thompson, c'est toujours très gay, hein, c'est... Voilà, donc c'est vraiment très glauque. Alors l'histoire est simple, c'est un pur film noir, ça dure 2 heures avec un rythme très languissant, la chaleur est écrasante, voilà, on est aux États-Unis, c'est un boxeur déchu qui va pas très bien, quoi. Voilà, qui est devenu une sorte de clochard qui arpente comme ça les rues, qui se déplace d'état en état, enfin voilà. Et puis un jour il tombe sous le charme de Rachel Ward et sa voix rauque, envoûtante. Voilà, il tombe sous le charme de Rachel Ward, qui est en fait une alcoolique, hein, qui vit seule dans une grande maison dont elle a hérité à la mort de son mari. Et elle l'embauche, ils s'entichent l'un de l'autre, enfin bon, voilà. Et tout à coup, dans l'entourage de cette femme, il y a Bruce Dern qui est fantastique, voilà, dans le rôle d'un drôle de mec, un mec un peu louche, dont on ne sait pas trop s'il baratine, s'il est vraiment pote avec des flics, s'il a des réseaux secrets, si c'est un chef, un gangster, voilà, on ne sait pas trop. Et à un moment, il propose à ce boxeur, Kevin Collins, incarné par Jason Patrick, il lui propose d'aller enlever un gamin d'une famille très riche. Voilà. Et évidemment, tout ça va très très mal se passer, puisqu'on est chez Jim Thompson. Voilà, ça n'a pas du tout bien se passer. Moi, je trouve que c'est un film très intéressant dans son rythme languissant, dans la manière dont c'est filmé. Je trouve que Foley a beaucoup de talent. Il a une caméra assez virevoltante par instant. Il s'est aussi instauré un rythme très lent aussi à d'autres moments. Voilà. Mais le film a un défaut pour moi, c'est Jason Patrick. C'est-à-dire que je trouve que l'acteur... Et pas très bon, quoi. Voilà, je le trouve pas terrible comme acteur, et je le trouve un peu inexpressif, quoi. Voilà, je le trouve pas très bon dans le rôle principal, malheureusement. Ce qui n'enlève rien au fait que le film est quand même très intéressant, hein. Voilà, c'est une vraie extension du film noir. Moi, j'aime beaucoup, j'appelle ça ces films noirs diurnes, en fait, sous un soleil écrasant, sous un soleil plombant. Et puis, c'est noir, quoi. C'est c'est Jim Thompson, quoi. Il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre, quoi. Ils sont tous terribles, quoi. Enfin, voilà, c'est... Voilà, donc c'est vraiment... enfin, c'est un film méconnu, qui mérite d'être redécouvert. Et il y a quand même certains moments qui sont assez impressionnants, des très beaux plans séquences. Il y a une scène qui est très réussie, c'est la scène de l'aéroport. Alors, hein, ceux qui ont vu le film me comprendront, qui est très drôle, qui est très chouette. Et il y a aussi une scène de sexe assez torride, hein, entre Rachel Ward et Jason Patrick, qui est assez étonnante dans la manière dont elle est filmée. Elle n'est pas dans les canons esthétiques des scènes de sexe comme on en voyait à l'époque. Voilà, on est à l'époque où c'est la mode du thriller un peu hot, hein, au début des années 90. Voilà. Donc, bon, je vous le conseille pour la redécouverte. Je regrette juste, moi, c'est ce Jason Patrick qui m'embête un peu. Voilà. Autre film récent, c'est un film de Soderbergh qui est sorti chez Rimini Éditions ce coup-ci, qui est un film avec George Clooney et Jennifer Lopez. D'ailleurs, hein, c'est le couple, hein, du film, en fait. Hein, le film tourne autour de ça. C'est Hors d'atteinte, qui est un polar qui, par moments, va flirter un peu avec l'ambiance du film noir sans être réellement un film noir. Hein. C'est un polar, hein, d'action, voilà. C'est une sorte de jeu du chat et de la souris entre un arnaqueur sympathique, Jack Foley, qui est campé par George Clooney, qui est toujours très bon dans ses rôles de loser, sympathique comme ça, qu'on ne peut pas détester, voilà. Qui arrive quand même à braquer les banques sans flingue, sans rien, avec un petit stratagème assez malin, hein, d'ailleurs, hein, voilà, qui peut fonctionner. Et c'est très drôle, d'ailleurs, parce que dès le début du film, il se retrouve... il va braquer une banque, ça se passe très bien, il remonte dans sa voiture, et sa voiture ne démarre pas. Et on est mort de rire. On se dit, mais putain, mais quel poissard, c'est pas possible. Et lui, il est drôle, il joue très très bien la scène. Il est bien meilleur que dans Grizzly 2, d'ailleurs. Hein. Il s'est vachement amélioré depuis le retour des tomates tueuses et Grizzly 2. Et il porte le film, et puis il va rencontrer, évidemment, hein, il va tenter de s'évader de la prison où il est. Et là, il tombe sur Jennifer Lopez, qui est une sorte de chasseuse de primes, hein, qui transporte les prisonniers, voilà, et qui les amène d'une prison à l'autre, qui les amène au tribunal, tout ça. Et bon, il a du bol, parce qu'il tombe sur Jennifer Lopez, quand même. Il a quand même plutôt de la chance, le garçon. Et puis, ben, il y a une sorte de relation qui va se nouer entre eux deux, qui est une sorte à la fois de relation amoureuse, mais qui est aussi une relation, comment dire, où elle le traque aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, où lui, il va retrouver des bras cassés, comme ça. Et on est sur ce Soderbergh, un peu. Moi, c'est un Soderbergh que j'aime bien. C'est des films toujours un peu trop longs. Il y a toujours des moments où ça manque un peu de rythme, mais c'est des films nonchalants où on se sent bien, on se love dans ces films, et puis on est heureux, on suit les personnages, c'est pas très compliqué, mais en même temps c'est bien fait, c'est bien écrit. Bon, c'est quand même un bon metteur en scène, hein. il y a des très beaux plans de cinéma, et c'est surtout lui qui fait sa photo sous pseudo, et sa photo est vachement belle, je trouve, dans ses films. Voilà. Alors ça vaut pas l'anglais, hein. Voilà, ça vaut pas, voilà, l'anglais, je considère que là c'est un putain de polar, c'est un super film de Soderbergh. Là c'est plus un film récréatif, mais ma foi, c'est très très agréable comme film. Avant de revenir vers un classique du film noir et de terminer sur un classique du film noir, un vrai de vrai, je voulais juste vous parler d'un ouvrage qui est un ouvrage passionnant puisqu'il se consacre à un film noir, mais pas que. Ça s'appelle The Big Goodbye. C'est sorti chez Carlotta Film, mais c'est un livre. The Big Goodbye, c'est sous-titré Chinatown et les dernières années d'Hollywood. C'est un livre de Sam Wasson. C'est en fait un livre très particulier qui démarre par la rencontre, puis l'histoire d'amour entre Roman Polanski et Sharon Tate. Voilà. D'ailleurs, la première phrase est très belle, elle est souvent citée en exergue, hein, quand on cite l'ouvrage. Sharon Tate ressemblait à la Californie. Tout est dit, c'est-à-dire que quand elle va mourir, il y a tout un idéal qui va disparaître. Voilà. Et donc, ça démarre par cette histoire d'amour, et dès le début... Wasson décrit avec un style assez particulier un rêve qui va virer au cauchemar. Voilà. Et son style est assez étonnant puisqu'on est presque dans quelque chose d'assez hard-boiled. Alors c'est volontaire, hein, c'est-à-dire il a choisi un style très roman noir justement pour écrire sur un film noir et en particulier sa genèse. Mais là où on croit qu'on va avoir affaire à un livre consacré à Polanski sur la genèse du film, en fait, le livre n'est pas que ça. C'est-à-dire, on va découvrir le Chinatown de Polanski, mais on va aussi découvrir le Chinatown de Robert Towne. tel que lui le voyait. On va découvrir aussi, comment dire, celui de Robert Evans, celui de Jack Nicholson. En fait, on va s'attacher au pas de tous les acteurs majeurs de ce film. Et en même temps, on va lire un livre qui est écrit comme si c'était un auteur de roman noir. En fait, alors toute proportion gardée, j'allais citer un peu Elroy parce que le livre a un côté pavé et très touffu comme ça, mais un peu comme si Elroy décrivait la fin du vieil Hollywood par un film très référencé en fait au vieil Hollywood, par un chantre, en tout cas quelqu'un qui était considéré comme, même si c'était un immigré polonais, comme un peu une sorte de parangon du nouvel Hollywood. Voilà, en l'occurrence, Polanski, bon, il ne va pas être nouvel Hollywood très longtemps parce qu'il va vite devoir quitter les États-Unis. Hein, voilà. Mais et c'est une légende déchue, voilà, où se croisent plein de personnages. Enfin, c'est assez passionnant. Et moi, je vous invite à le lire. C'est un gros livre. Hein, voilà, ça fourmille d'informations. C'est très, très documenté. Et je ne vais pas en dire plus. C'est écrit au cordeau, comme je l'aime. Ça s'appelle The Big Goodbye. Et c'est disponible chez Carlotta Film. C'est un livre de Sam Wasson sur un des derniers grands films noirs, Chinatown, de Roman Polanski. Nous allons terminer cette émission par un film que moi je trouve, c'est un chef-d'œuvre, hein, du film noir, voilà, avec le Sieur de Mac, dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve que les deux plus grands films de cette salle dont nous parlons aujourd'hui. Alors là, il est sorti chez Rimini. On va dire que le film noir, en ce moment, il est quand même bien traité par les éditeurs. C'est l'autre film noir d'Anthony Mann avec la Brigade du Suicide. Hein, et c'est Marché de Brut, Raw Deal. Deal cru, hein, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais je trouve que la traduction marché de brut est plutôt pas mal, en fait. Voilà, elle cadre bien. Et qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un truand qui s'évade avec la complicité de sa compagne, voilà, qui est vraiment très, très amoureuse de lui. Hein. Et dans sa fuite, il prend comme otage, parce que ça ne se passe pas vraiment comme prévu, la voiture tombe en rade et tout, donc il est obligé de prendre comme otage Anne Martin, qui est l'assistante de l'avocat qui travaille à sa défense. Voilà. Alors, il se trouve qu'elle est jeune, qu'elle est jolie et qu'elle est un peu fascinée par lui. On va avoir droit à un triangle amoureux, mais elle, en même temps, ce qui le fascine chez lui, c'est que ça a été un homme bon, qui a eu une médaille du courage ou du mérite, je ne sais plus quoi, quand il était jeune. Et elle se demande comment il a pu basculer truand. Voilà. Et elle est sûre que derrière cet homme, il y a un homme bon. Voilà. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait, Sullivan ? Lui, il veut retrouver le chef de gang Rick Coyle, qui lui doit du pognon, qui est incarné d'ailleurs par Raymond Burr. Alors, Sullivan, il est incarné par Denis O'Keefe. Et il veut retrouver Raymond Burr, qui lui doit du pognon. Et alors que Raymond Burr, lui, s'est un peu arrangé. Enfin, lui, il est quasiment sûr que Sullivan va se faire tuer. Et quelque part, ça l'arrange qu'il s'évade. Voilà. Et parce qu'en fait, il ne veut pas le revoir. Et ça va donner un film assez extraordinaire, hein, voilà, qui est sorti 5 mois après la Brigade du Suicide aux États-Unis, hein, et qui est un film qui déjoue un peu tous les pièges, qui a des personnages magnifiques, parce que c'est un film aussi, une sorte de mélodrame amoureux, ce personnage de Pat Cameron, là, qui est amoureuse de son homme, on entend ses pensées, tout ça, enfin, il y a des choix de narration qui sont très très beaux, et puis c'est une histoire assez tragique, hein, quand même, hein, voilà, il faut le dire, et en même temps, c'est aussi un film très très noir, parce que, en fait, cet homme qui était bon, ne mourra pas bon. Enfin, c'est-à-dire, il y a une sorte de déterminisme terrible. Le film est très très noir, quoi. Voilà, il y a pas de comment dire de rémission. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, alors, il y a plein de séquences incroyables. La photographie de John Alton est géniale. Le moment où Sullivan se rapproche, par exemple, de la planque de Raymond Burr, là. Qui est filmé dans un brouillard expressionniste, comme ça, on a l'impression d'être dans une sorte de film fantastique. Bon, la copie, là, elle est magnifique. Hein. Je vais dire, là, elle est vraiment très, très belle, la copie qui est sur le Blu-ray. Y a des scènes extraordinaires. À un moment, ils sont en fuite, ils vont se cacher dans la forêt, il y a des contre-jours avec la forêt, ils allument un petit feu, c'est magnifique. Il y a un moment aussi, il va chez un vieil ami. Il y a une scène, cette scène-là, je l'adore. Il va chez un vieil ami pour prendre une bagnole. Voilà, pour pas se faire repérer, passer la frontière et tout. Enfin, je sais plus, c'est passer la frontière. Enfin, bref, pour prendre une bagnole et pas se faire repérer. Et là, ils sont tous, les deux femmes, plus lui et son pote, il leur arrive un truc incroyable. C'est-à-dire qu'au même moment, dans le coin, il y a des flics de partout, parce qu'il y a un gars qui a tué sa femme dans un accès de folie et qui est poursuivi par les flics. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient se réfugier dans la maison où ils sont. Voilà. Alors que lui, c'est un des criminels les plus recherchés des États-Unis, quand même, hein. Il finit, la scène est incroyable, eux ils finissent devant la fenêtre, donc il y a un cadre dans le cadre, et ils voient quelque part ce qui pourrait lui arriver, moi je trouve ça génial en fait, et ils voient ce type se faire flinguer par les flics, et ils sont là comme au spectacle, et ils regardent ça à travers la fenêtre, je trouve cette scène absolument, absolument extraordinaire. Mais je trouve que tout le film est parfait, et regorge de scènes complètement hallucinantes, où en plus les personnages ne sont pas manichéens, parce que par exemple cette amoureuse transie incarnée par Claire Trevor, celle qui fait Pat, tandis que la petite jeune c'est Marsha Hunt, celle qui est un peu juvénile et qui a le regard cristallin de l'innocence, comme ça. Elle l'aime, mais en même temps, à un moment, elle lui ment pour arriver à ses fins. Voilà. Et puis après, elle n'arrive plus à lui mentir. Enfin bref, c'est toute une histoire, mais moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a des scènes de baston qui sont assez énormes, où il joue avec la profondeur de champ aussi. Enfin, Anthony Mann, c'est pas un manchot, Thomas, hein, quand même. Hein.
Ce film-là ça a la particularité qu'il est raconté par une femme. La voix off, c'est une femme, c'est la complice du personnage principal, ce qui est quand même quelque chose d'assez original à l'époque du film noir. Et c'est aussi un film qui n'est pas très MeToo compatible, parce qu'à un moment, il y a Raymond Burr qui balance un truc enflammé à la tête d'une femme parce qu'elle l'a bousculé, elle l'a effleuré lors d'une soirée. Et donc, c'est pas vraiment... C'est un film assez violent, assez moderne par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui est quand même un petit peu plus mou.
Ce que je retiens surtout de ce film-là, c'est l'extraordinaire histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on assiste en tant que spectateur à la désillusion de la première compagne du héros et surtout à la naissance. C'est-à-dire que la personne qui au départ d'ailleurs n'est pas spécialement séduite par le héros parce que c'est contre ses principes, et au fur et à mesure que le film avance, bien sûr, on va voir un peu comme ça l'attirance, l'amour naître entre les deux. Et c'est vraiment ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que sous couvert d'un film noir, qui est réellement un film noir, pour le coup, on est bien d'accord, mais le plus souvent, c'est peut-être le destin brisé d'un homme, il y a plusieurs choses. Mais là, on se dit, oui, il y a vraiment une très, très grosse histoire d'amour. Donc ça m'a réellement touché. Voilà. Make my blood pump faster. It make the rain fall harder. It make the room spin. Your baby water, and now my heart.
much of a peaceful man.
Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the Last, but not the Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.